Et c'est l'heure du journal présenté par Benoît Bouscarel.
Exactement. Bonsoir à toutes et à tous. En Libye, la politique extérieure française plutôt très mal vue ces temps-ci, le soutien affiché de Paris au général Haftar qui tente de prendre Tripoli au gouvernement d'Union nationale n'est pas compris. Correspondance d'Omar Waman qui est sur place dans un instant. Des dizaines de morts en Éthiopie, ce sont des affrontements interethniques qui réapparaissent dans le pays. La situation est confuse sur place et le bilan incertain. Nous ferons le point avec Nadine Epstein. Nous irons également en Thaïlande dans ce journal où les cérémonies de couronnement du roi Ramadis se préparent. C'est pour demain et ça va durer 3 jours. Reportage à Bangkok de Thibaut Cavaillès. En France, la situation politique délicate de Christophe Castaner suite aux manifestations du 1er mai et à l'affaire de la Pitié-Salpêtrière. Délicate au point d'avoir nécessité l'intervention d'Edouard Philippe qui réaffirme son soutien au ministre de l'Intérieur. Et puis l'enquête de cette édition, s'il n'y est Sylvain Tronchet ce soir, enquête sur les secrets du financement de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. En Libye, cela fait un mois désormais que les combats font rage autour de la capitale, Tripoli. Depuis le début de leur offensive, les forces du général Haftar sont confrontées à la résistance farouche des combattants fidèles au gouvernement d'Union nationale reconnu par la communauté internationale. Dans ce conflit, la France tient une position ambiguë et soutient toujours le général Haftar qui fait partie de la solution, a déclaré dans une interview donnée hier soir au Figaro le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Le chef de la diplomatie française fait valoir le rôle joué par l'homme fort de l'Est libyen dans la lutte contre le terrorisme. Mais cette position sur place est évidemment très critiquée. Depuis Tripoli, notre envoyé spécial Omar Waman.
À Tripoli, les habitants n'ont pas de mots assez durs pour évoquer la position française selon laquelle le général Haftar fait partie de la solution. Mais ce qui est surtout reproché, c'est le soutien tacite à un homme qui n'a eu de cesse de vouloir torpiller le processus de réconciliation qui devait mener à des élections. En faisant de Khalifa Haftar un interlocuteur incontournable sur la scène libyenne, Paris lui a permis de renforcer son emprise sur le pays avant de se lancer à la conquête de Tripoli où siège le gouvernement d'Union nationale reconnu par la communauté internationale mais contrôlé par des milices toutes puissantes. La France, qui a une vision régionale, veut mettre fin au chaos qui règne en Libye. Mais un mois après le début de l'offensive de Khalifa Haftar sur la capitale, c'est l'impasse totale. L'image de la France aux yeux de nombreux Libyens s'est fortement dégradée, accusée de vouloir le retour de la dictature. Une image qui pourrait se détériorer davantage dans les prochains jours si l'homme fort de l'Est libyen décidait d'utiliser sa supériorité militaire, notamment dans les airs, pour forcer le passage au risque de provoquer de lourdes pertes humaines et d'importantes destruction.
À Tripoli, notre envoyé spécial Omar Waman. Dernier vendredi avant le début du Ramadan, à Alger, les manifestants qui demandent toujours un changement radical dans les institutions et la classe dirigeante ne baissent pas les bras. Ils sont toujours très nombreux dans les rues cet après-midi, même si les rangs sont un peu plus clairsemés que lors des 10 vendredis précédents. Les manifestations continueront pendant le mois sacré, font savoir ces manifestants. En Éthiopie, le retour des affrontements sanglants entre ethnies. On a appris aujourd'hui que plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans l'état Amhara, situé dans le nord-ouest du pays. Le bilan, pour le moment, ne peut être plus précis, dans l'attente de missions de recherche qui se poursuivent, d'après les autorités, en direction de possibles nouvelles victimes ou de survivants. Bonsoir Nadine Epstein.
Bonsoir.
Les victimes font partie de l'ethnie Gumuz, ciblée dans un contexte de tensions interethniques très vivaces dans la région, probablement en représailles à des troubles qui avaient eu lieu déjà la semaine dernière.
Et c'est surtout dans l'ouest de l'Éthiopie, près de la frontière avec le Soudan, que deux ethnies dans deux états voisins s'attaquent à coup tour de rôle. Ces affrontements intercommunautaires, le plus souvent pour des enjeux territoriaux, ont au moins, en moins d'une semaine, tué une cinquantaine de personnes. Mais la question est récurrente. Aujourd'hui, à l'intérieur de l'Éthiopie, il y a, selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de 3 millions de personnes déplacées. 2/3 ont fui les violences. Près de 8 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, a estimé en janvier le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Pour aider les réfugiés internes, 600 sites d'accueil ont été installés. Certains sont des camps qui accueillent jusqu'à 80 000 personnes, comme à Koligi, dans la région Somalie, dans l'est de l'Éthiopie, où des familles sont arrivées il y a déjà plus d'un an. La recrudescence des attaques entre ethnies et clans différents est liée à la question sensible des terres. Les communautés se disputent les terrains et les dizaines de morts dont on parle aujourd'hui suivent les 21 tués le week-end dernier qui eux-mêmes, malheureusement, viennent après d'autres victimes. Ainsi, depuis plusieurs années, les deux régions et les communautés d'Oromo et de Goumouz et leurs communautés se déchirent à coups de couteau et se combattent. Depuis l'arrivée au pouvoir en avril 2018, le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a lancé une série de réformes démocratiques qui secouent la politique et l'économie du pays. Mais certains sujets, comme les réformes agraires et les violences intercommunautaires, n'ont pas encore été améliorés.
Merci Nadine Epstein. Au Mali, 18 civils ont été tués dans une double embuscade menée par des hommes armés à deux jours d'intervalle dans une même commune du centre du pays, une région où opèrent les djihadistes. C'est ce qu'on a appris tout à l'heure d'une source proche des services de sécurité. Et puis toujours en Afrique, au Bénin, deux touristes français et leur guide sont portés disparus depuis mercredi dans un parc national du nord du pays. En Irak, lors de la reconstruction du pays, les chantiers sont gigantesques après les années de destruction dues notamment à l'installation puis à la lutte contre le califat de l'organisation État islamique. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Benoît.
La reconstruction de l'Irak, c'était un des thèmes abordés ce matin à l'Élysée par le Premier ministre irakien venu rencontrer Emmanuel Macron, et c'est beaucoup d'espoir aussi, beaucoup de perspectives pour de nombreuses entreprises françaises.
Oui, à Paris, le nouveau Premier ministre irakien a eu deux rendez-vous aujourd'hui en marge de sa rencontre avec Emmanuel Macron, d'abord au ministère des armées, puis cet après-midi à Bercy, car les sujets économiques et financiers pèsent lourd, effectivement, dans cette visite. Les entreprises françaises ne comptent pas seulement sur la francophilie du dirigeant irakien, qui a vécu 20 ans en exil dans l'Hexagone pour être associé à la reconstruction du pays. Elles attendent des retombées liées à leur savoir-faire et aux efforts déjà consentis par la France en faveur de l'Irak. C'est le message délivré par Emmanuel Macron à la mi-journée à l'Élysée.
Notre volonté est, à travers cette feuille de route, pouvoir faire davantage, et vous allez rencontrer nos entreprises investies dans la reconstruction de l'Irak, qui est une véritable terre d'opportunités, et qu'il s'agisse de transport, d'énergie, d'agriculture, d'eau, de gestion urbaine. Nous souhaitons pouvoir les mobiliser pleinement, comme nous avons mobilisé une ligne de financement d'1 milliard d'euros pour faciliter ces nouveaux projets.
Ce milliard sous forme de prêt transparaît en filigrane dans la feuille de route stratégique signée par les deux pays. La France espère des annonces de contrats dans les prochaines semaines. L'Agence française de développement va installer une antenne en Irak. Jusqu'à présent, le marché le plus emblématique est celui que Alstom espère conclure rapidement pour la construction du métro aérien de Bagdad. Les négociations durent depuis une décennie et les études sur le terrain sont déjà très avancées. Le Premier ministre Adel Abdelmadi a de grands projets pour son pays où la plupart des infrastructures doivent être rénovées ou reconstruites, le tout dans un contexte de concurrence exacerbée face à l'Iran, aux États-Unis et à plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne.
Merci Bertrand Galichet. En Afghanistan, la Loya Jirga, assemblée de hauts dignitaires afghans, a pris fin aujourd'hui à Kaboul. Les participants se sont mis d'accord sur un appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans le pays. Appel, comme on pouvait s'y attendre, rejeté par les talibans. En Thaïlande, les cérémonies du couronnement du roi Rama X, à partir de demain, elles vont durer 3 jours. Le nouveau roi règne déjà depuis novembre 2016, depuis la mort de son père Rama IX, qui lui était resté 70 ans sur le trône et qui lui était très respecté et plus apprécié par les Thaïlandais, ce qui n'est pas le cas de son fils. À 66 ans, il n'a toujours pas adopté les attitudes royales. Reportage juste devant le palais royal à Bangkok de Thibaut Cavaillès.
Les alentours du palais royal n'ont jamais été aussi bien soignés. Un homme s'assure que rien ne dépasse d'une pelouse synthétique déroulée pour l'occasion. D'autres arrosent des fleurs. Il est midi, 38 degrés. Le soleil écrase des femmes bénévoles équipées de balais rustiques, nettoyant les caniveaux. Toutes sont vêtues d'un polo jaune. Bai en vend dans sa boutique. Les siens sont floqués d'un très gros King Rama X.
Nous avons spécialement fait ces t-shirts en jaune car c'est la couleur du roi. Je suis très heureux car nous allons célébrer notre nouveau roi. Je suis très heureux d'être aussi près de la cérémonie.
De l'autre côté de la rue, en effet, un immense mur blanc. Derrière, des temples et autres demeures aux façades ciselées. C'est là que vit le roi, en fait si peu dans l'année, car Rama X préfère la Bavière où il se promène en débardeur dévoilant un dos couvert de tatouages. Les tabloïds le remercient. Lui qui a élevé son caniche au rang de maréchal de l'armée de l'air, qui a multiplié les mariages et les répudiations. Surprise, ce mercredi, il a annoncé avoir convolé en catimini avec celle qui partageait sa vie depuis quelque temps. Mais toutes ces frasques ne dérangent pas pour autant Kitissa, taxi à scooter.
Je me fiche de ce que disent les étrangers. La monarchie ici est une structure stable. Nous voulons la garder pour toujours et nous verrons ensuite.
Les actes, donc, pas la vie privée. Les rois ici sont comme des demi-dieux, critiques, impossibles. Un crime de lèse-majesté, c'est entre 3 et 15 ans de prison.
Thibaut Cavaillès à Bangkok. La satisfaction affichée de Donald Trump aux États-Unis après la publication la semaine dernière de très bons chiffres de croissance. Voici que ce sont les statistiques du chômage qui viennent conforter le président des États-Unis à 3,6% de taux de chômage. Ces chiffres sont tout simplement les meilleurs depuis 49 ans. Grégory Phillips.
Jobs, 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 réagit dans un tweet le président américain en lettres majuscules et avec un point d'exclamation. Et c'est vrai que Donald Trump a toutes les raisons de se réjouir des chiffres publiés par le département du travail. 263 000 créations d'emplois en avril, les secteurs du bâtiment, de la santé, de l'aide sociale recrutent et le salaire moyen des Américains augmente légèrement de 6 cents par heure. Pourtant, ce taux de chômage à 3,6% ne doit pas faire oublier une autre réalité. Selon le même ministère du Travail, environ 23 millions d'adultes inactifs échappent totalement aux statistiques, ils ne sont pas comptabilisés. L'emploi précaire et intérimaire se développe, le nombre de travailleurs pauvres aussi, il n'est pas rare ici d'avoir deux emplois pour boucler les fins de mois. Les seniors de plus de 65 ans, obligés de travailler, sont aussi plus nombreux. Mais ce taux de chômage historiquement bas est évidemment une très bonne nouvelle pour Trump, qui, à un an et demi des prochaines élections, peut clamer que sous sa présidence, plus de 4 millions d'emplois ont été créés.
Grégory Phillips, voilà donc la bonne nouvelle pour Donald Trump, dont on apprend à l'instant qu'il s'est entretenu il y a quelques instants avec Vladimir Poutine au téléphone à propos de la situation au Venezuela. En ce 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, un hommage a été rendu dans la matinée à Paris à trois journalistes français tués en mission ces dernières années. Camille Lepage, photojournaliste indépendante qui a été assassinée en Centrafrique en 2014, et Ghislaine Dupont et Claude Verlon, reporter à RFI assassiné au Mali en 2013. Ils ont désormais une place à leur nom à Paris. Et au-delà de l'hommage, de nombreuses questions se sont posées pendant cette cérémonie sur les circonstances de la mort de nos consoeurs et confrères. Il faut dire que les enquêtes n'avance pas, Maud Calvès.
Aucune nouvelle avancée dans l'enquête depuis 5 ans et demi, malgré les relances régulières auprès du ministère de la Justice.
Ni circonstances, ni mobiles, plusieurs pistes, mais rien de très officiel. Il y a plus d'un an, Emmanuel Macron promettait de tout faire pour retrouver les assassins, depuis, silence. Alors, cette plaque bleue, qui trône au cœur de trois rues de l'ancien quartier de la Presse, c'est l'occasion pour les familles de demander une fois de plus la vérité. C'était le 2 novembre 2013, Marie-Pierre Hillan apprend la mort de son frère, Apolline Verlon, celle de son père.
C'est comme un problème, tant que vous n'avez pas trouvé solutions, vous continuez de chercher, de faire des hypothèses et parfois complètement farfelues, mais vous voyez, vous avez besoin d'avoir une réponse, quoi. Et celle que j'ai eue jusqu'à présent, elle n'était pas convaincante.
Ça fait 6 ans. On peut imaginer que c'est des affaires qui vont pas... On va pas connaître la vérité immédiatement, mais c'est vraiment très très long, quoi. Très très long, c'est dur pour les familles. Et moi, j'estime que tant qu'on ne connaîtra pas la vérité, je pourrais pas faire mon deuil complètement.
Ghislaine Dupont, Claude Verlon, Camille Lepage, mortes et morts pour l'information. Inscription faite sur cette plaque. À côté, la mère de Camille Lepage, jeune photo-reporter indépendante assassinée en Centrafrique.
Pour nous, c'est important parce que c'est pas de savoir qui a tiré sur Camille. C'est plutôt de savoir s'il y a des chefs et puis de savoir exactement quelle est la milice en face qui a tiré dessus.
Pour les proches, cette journée est douloureuse, mais redonne, comme à la fille de Claude Verlon, encore un peu d'espoir.
Je préférerais aller boire un verre avec lui à côté ou un café au soleil plutôt que d'avoir une plaque. Mais bon, mais c'est quand même encore une marche de plus vers la vérité et ça c'est chouette.
La cérémonie se termine, les yeux sont humides, la plaque dévoilée, une dernière pensée en musique. Tout le monde se quitte en sachant très bien que la vérité sur ces trois assassinats, ce n'est pas pour maintenant.
Reportage de Maud Calvès et en ce jour de la liberté de la presse, on apprend au Mexique qu'un journaliste de radio a été assassiné par balle, tué devant chez lui dans la ville de Juchitán dans le sud du pays. Telesforo Santiago Enriquez travaillait pour une radio communautaire. En France, Édouard Philippe renouvelle sa confiance au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, toujours au centre d'une intense polémique depuis ses propos hasardeux sur les événements du 1er mai à la Pitié-Salpêtrière. Il est soutenu officiellement donc par son Premier ministre, alors que dans le même temps, son audition devant la commission des lois du Sénat ou de l'Assemblée est réclamée notamment par l'opposition de gauche. Le principal intéressé a reconnu ce matin avoir utilisé le mauvais terme en parlant d'attaque du service de réanimation de l'hôpital parisien, estimant qu'il aurait été préférable de parler d'intrusion violente. Ce n'est pas la première remise en cause des compétences et de l'autorité du ministre de l'Intérieur, mais il tient, et il y a des explications à ça. Écoutez l'analyse du politologue Stéphane Rosès, interrogé par Rosalie Lafarge.
Dès le départ, on le sait, sa nomination a posé question quant à ses compétences et dorénavant, pour le gouvernement, le ministre est plus un problème qu'une solution. Paradoxalement, l'atout de Christophe Castaner, au-delà du fait que c'est un fidèle, réside dans le fait que, comme la période est très instable, le président ne veut pas montrer qu'il subit la pression de l'opinion, des médias et de l'opposition. Et donc, il voudra en tout montrer qu'il est le maître des horloges et que, au fond, c'est lui, en tout cas, en matière de nomination et de responsabilité, qui décide dans le pays. Et alors même que la légitimité technique et politique de son ministre est en cause, c'est ce qui pourrait permettre éventuellement de rester et d'attendre un prochain remaniement, soit après les européennes, soit après les municipales.
Deux affaires suite au 1er mai tendu à Paris vont être étudiées de près par l'inspection générale de la police nationale. Deux affaires qui pourraient peser encore un peu sur Christophe Castaner, celle d'un policier en civil filmé en train de mettre sa matraque dans le pantalon d'un homme interpellé et celle d'un autre policier en uniforme lançant un pavé sur des manifestants. 18h15 sur France Culture, nous retrouvons l'enquête de cette édition avec Sylvain Tranchet. Bonsoir.
Bonsoir Benoît.
De la cellule Investigation de Radio France, en pleine campagne pour les élections européennes, vous vous penchez aujourd'hui sur la levée de fonds réalisée par les équipes d'Emmanuel Macron lors d'une autre campagne, celle des présidentielles en 2017. Et pour cette enquête, vous vous êtes appuyé sur des documents rendus publics récemment.
Oui, parce que mardi prochain, cela fera 2 ans qu'Emmanuel Macron a été élu. Mais ce n'est que depuis quelques semaines que tous les chiffres, les comptes du parti, les comptes de sa campagne et surtout les fichiers des dons qu'il a reçus sont disponibles. Ces fichiers, ils sont parfois énormes, nous les avons analysés, et ils racontent l'histoire d'une levée de fonds sans précédent en politique en France. Entre 2016 et 2017, Emmanuel Macron a reçu 16 millions d'euros de dons de particuliers. Et sur ces 16 millions, la moitié proviennent de dons supérieurs à 4500 euros. Ce sont ceux qu'on a appelés les grands donateurs.
Et alors, ils étaient combien ces grands donateurs, Sylvain ?
Eh bien, d'après nos calculs, environ 800. 800 personnes ont donc donné autant que 100 000 autres petits donateurs. Et pour pouvoir arriver à ce chiffre, il a fallu que certains donnent plusieurs fois pour rester dans les clous et optimiser au mieux la réglementation électorale. On en a identifié donc qui ont donné 7500 euros en 2016 au parti, à La République En Marche, puis 7500 euros encore en 2017, puis 4600 euros à l'association de campagne. À chaque fois, c'est le plafond autorisé. Certains ont multiplié leurs dons par deux parce qu'ils ont aussi donné pour leur conjointe ou leur conjoint et ils ont pu aller comme ça jusqu'à 40 000 euros. Ces grands donateurs, ils ont été déterminants dans la campagne Macron, surtout dans les premiers mois où ils représentaient près des 3/4 des ressources du candidat.
Et c'est intéressant parce que ce n'est pas du tout l'histoire qui avait été racontée à l'époque par le candidat Macron pendant la campagne.
Non, pendant toute la campagne, son équipe a toujours présenté les chiffres de façon à minimiser l'importance des grands donateurs. Là encore, nous avons pu le vérifier grâce aux fichiers. Dans un document interne d'En Marche qu'on a pu lire, on comprend pourquoi c'est écrit noir sur blanc, ça donnait une image CAC 40 du candidat, c'est ce qui est écrit, et surtout, ça décourage les petits donateurs. Bon, ils ont quand même fini par arriver, les petits dons, mais assez tard dans la campagne. En fait, ce qu'on peut reconnaître à Emmanuel Macron, c'est qu'il n'avait pas beaucoup d'autres choix. Son parti était jeune, il n'avait donc pas le droit au financement public, et s'il a ciblé d'abord les gens capables de faire un chèque de plusieurs milliers d'euros, c'est qu'il a exploité une spécificité française qu'a montré l'économiste Julia Cagé dans un livre, Le prix de la démocratie, qui s'appuie sur des données fiscales inédites.
Il y a très peu de gens qui donnent ou contribuent chaque année à un parti politique. On est à 0,79% des foyers fiscaux en moyenne, donc c'est vraiment très faible. Par contre, ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point ce chiffre est élevé pour les plus riches. Le pourcentage de foyers fiscaux qui donnent parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, c'est 10%. Donc les plus aisés financent le jeu démocratique en France.
Voilà, Emmanuel Macron s'est battu contre un système. Mais aujourd'hui, il en bénéficie. Du coup, La République En Marche ne collecte quasiment plus de dons de particuliers, seulement 1 million d'euros l'an dernier. Et pourquoi ? Parce que grâce à ses bons résultats aux législatives, l'AREM peut désormais compter sur le financement public des partis politiques, 22 millions par an désormais pour le parti d'Emmanuel Macron.
Merci Sylvain Tranchet. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Un temps sensiblement plus frais et plus agité demain. C'est une perturbation arrivant du nord qui en est
responsables et c'est finalement tant mieux. Les pluies seront fréquentes, il y aura aussi un peu de neige. Bonne nouvelle pour l'ensemble des régions touchées par une sécheresse souvent très inquiétante. Température minimale de 0 à 6 degrés en Auvergne et sur la moitié nord de 5 à 10 degrés au sud. Maximale de 10 degrés à Lille ou Strasbourg, jusqu'à une vingtaine de degrés sur le sud.